Bonjour Aliette.
Bonjour Franck.
Alors aujourd'hui, un des films, moi j'estime un des plus grands films, en tout cas du noir et blanc, la période noir et blanc, qui s'appelle
Citizen Kane, de Orson Welles.
Voilà.
Et avec Orson Welles comme héros. Voilà. Donc, pour moi, quand je l'ai revu avec un autre regard et après quelques décennies, l'idée que j'avais, la façon d'en parler, je dirais que c'est le parcours tragique d'un héros fou et d'autres personnages plutôt quelquefois antipathiques que complexes, dans un décor complètement baroque, avec des excès à la fois sur le plan narratif et formel, et pour un film que aujourd'hui je verrais alourdi de quelques longueurs. Voilà. Mais le mot-clé pour moi, c'est excès, et c'est l'histoire, pas seulement d'un homme fou, mais d'une folie, et bien sûr qui rappelle trois héros, qui sont bien sûr ce William Randolph Hearst, enfin ce mania de la presse de l'époque. Le film est sorti en 46, alors qu'il avait été fait 41. En 41. Mais il est sorti, il y a eu beaucoup de façons d'empêcher la sortie en France.
Ah, en 46, France, oui,
voilà.
Oui, 48, oui, absolument.
Donc,
oui.
Le film 41, la sortie 46, et parce que justement, ce William Randolph Hearst ne voulait pas trop, effectivement, de publicité autour de quelque chose qui était sa biographie. C'est l'histoire aussi de Welles, et évidemment, aujourd'hui, ça reprend une autre couleur avec l'actualité de Trump. Oui. Parce que chaque fois, il est question d'une folie, donc avec toutes les ambivalences. Moi, ce que j'ai aimé dans celle donc, de cet homme, et celle qui est quand même l'histoire d'une condamnation, et l'histoire d'une prémonition, c'est Orson Welles qui fait ce film et qui déjà anticipe sur son propre parcours, avec donc une enfance trompée, trahie, une enfance emprisonnée, parce que quand même, ce petit garçon, il est quasiment vendu par sa mère, et donc ensuite, il est complètement enfermé, ensuite, ça devient un adolescent rebelle, aussi très ambitieux, qui veut en découdre avec cette société. Et puis petit à petit, donc, cette toute-puissance de l'adolescent se transforme en toute-puissance autrement plus dangereuse, avec des excès qui le font tomber en fait, dans la folie de cette culture. Cette ivresse, ensuite, conduit à une sorte de gueule de bois. Et en fait, c'est l'histoire de cette gueule de bois avec la destruction, très bien illustrée par une scène où, au moment où cet homme est quitté par la femme qu'il a tenté de mettre sous emprise et qui finit par en sortir, eh bien, à ce moment-là, cet homme entre dans la chambre de sa femme et il détruit tout. Et on voit cette rage de l'enfant qui est devenu adulte et qui n'a plus aucune limite. C'est-à-dire, là, on est dans le côté baroque aussi de ce parcours. Donc, de la destruction, de la condamnation, et quoi d'autre, évidemment, que l'illustration du parcours de Trump avec la fin navrante qui nous laisse tous atterrés de ce dernier mois, donc là, du mois de janvier 2021. Donc j'ai été touchée vraiment par à la fois que le côté atemporel de ce parcours dont on pense que ça peut servir de leçon au suivant que nenni, et le côté aussi contraste entre cet enfant abandonné, cet enfant traumatisé et cet enfant qui devient adulte mais qui reste dans une grande solitude avec des personnes qu'il met sous emprise, soit sur un plan amoureux, soit sur un plan professionnel. Voilà. Donc il y a le brio d'Orson Welles, à la fois comme réalisateur, mais aussi comme artiste et comme acteur. Il y a les éléments qui sont la neige qui dit la candeur, aussi quelque chose de cette innocence de l'enfant. Ensuite, avec l'élément terre, avec l'accumulation des objets, des honneurs, de l'argent. Et puis ensuite le feu. Donc à la dernière scène où on va brûler à la fois la luge qui reprend ce film dont c'était une des premières images du film avec cet enfant, avec une luge. Et à ce moment-là, on a la clé évidemment de ce mot Rosebud qui est comme une sorte de fil d'Ariane dans tout le film. C'est quel est ce mot, qu'est-ce qu'il signifie, et ce qui est le prétexte à l'enquête de ce Thompson qui pose des questions, qui en profite pour interviewer les autres personnages du film et les autres personnages de la vie de ce Hearst, voilà, avec une sorte de puzzle, avec la découverte, une enquête plutôt que la découverte, c'est une enquête qui permet à Wells de donner une cohérence à ce film, à défaut que le personnage soit dans la cohérence, voilà. Donc toute puissance, impuissance, les risques, tous les risques de mort dans une société qui elle-même est très malade.
C'est quand même un film, donc c'est son premier film en tant que réalisateur, je crois.
Oui.
Et en fait, ça va lui coller la peau quand même très longtemps. Et son personnage aussi, d'ailleurs.
Le personnage. Ouais. C'est-à-dire que c'est le premier film, oui, mais il avait fait déjà, il avait créé des émissions
de radio. Voilà, ah oui, émissions radio.
Et théâtre, émissions de radio, qui avaient eu un succès extraordinaire. Oui. Ça, je me souviens, j'ai parlé des choses à ce sujet, mais qui avait mis toute l'Amérique en alerte, en panique aussi. Et là, il avait déjà mesuré la puissance de son génie, la puissance de sa technique là. Et oui, vraiment, je pense que Trump n'a pas le génie de Orson Welles, qui a été un grand enfant tout le temps, mais comme un enfant archidoué, sans prendre la mesure des limites qu'il avait aussi à respecter. Donc on est là dans tous les excès. Donc c'est vraiment le mot que je garde, les deux mots, c'est excès et folie. Avec ce que ça a de fascinant et ce que ça a aussi d'effrayant.
Je crois que c'est lui qui avait fait cette émission radio qui s'appelait La Guerre des Mondes.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça. C'est là qu'il avait mis le.
Où les voilà. Américains ont vraiment cru.
Avaient cru au premier degré. Voilà. Ouais. Et voilà. Donc, c'est aussi l'absence du père dès les premières scènes où la mère confie cet enfant contre de l'argent à quelqu'un qui va utiliser évidemment cet enfant d'une façon très perverse, et le père n'arrive pas à faire autorité, et donc on voit déjà le rôle de l'argent qui va être bien sûr un élément clé aussi dans tout le film. C'est le rôle de l'argent à la fois comme outil aussi pour ce jeune homme, donc joué par Orson Welles, pour n'en faire qu'à sa tête et être rebelle. Et puis petit à petit, il va être lui acheté, et au moment où il attend d'acheter aussi les femmes, les collaborateurs, tout ça. Donc voilà, c'est quand même l'histoire d'une chute.
Alors moi, ce qui m'avait impressionné quand je l'avais vu, c'était, je me rappelle, c'était vraiment les plans qui étaient proposés, donc des plongées, des contre-plongées,
alors
des
ça,
plans séquences
complètement,
où la caméra reste fixe, mais les acteurs, donc un peu comme au temps du muet, sauf bon, avec des angles qui étaient un peu...
Très audacieux, donc ouais, c'est ça. L'audace de la forme, qui bien sûr nous fait pas le même effet que certainement en 41 et 46, parce que depuis, il y a eu toutes les nouveautés, les innovations et aussi les révolutions techniques dans la mise en scène, tout ça. Il reste quand même le talent d'Orson Welles pour mettre ces audaces techniques au service finalement de ses idées, de ses émotions. Et c'est vrai qu'on peut, encore une fois, on peut regarder le film sans la bande sonore, parce qu'elle est quand même très riche, très bavarde, très aussi complexe, et de regarder ce film sans la bande sonore ni la musique, c'est aussi complètement une aventure de toutes ces mises en scène innovantes, voilà, très innovantes. Mais qui reprennent bien aussi du Méliès et du cinéma, oui, complètement. Oui. C'est ça qui est intéressant.
Même des frères Lumière, en fait. Parce que,
oui.
Les angles, justement, les angles de prise de vue sont très profonds.
Et ça,
permet de voir beaucoup de détails, justement, de ce qui se passe.
Beaucoup de détails, des grands plans. Oui. Et c'est ça, pour moi, que ma gratitude pour Wells est d'avoir su en même temps s'appuyer sur ce qui avait déjà existé et en faire un tremplin pour des choses révolutionnaires qui aujourd'hui évidemment nous paraissent un tout petit peu quelquefois surannées, mais qui restent un moment étonnant de l'histoire du cinéma. Voilà. Wells a été vraiment quelqu'un, il y a eu avant et après Orson Welles.
C'est pour ça que moi, il m'a tellement impressionné, je pense. Enfin, oui, pour moi, c'est vraiment un grand, grand film. Quand je dis le plus grand film d'humanité du noir et blanc, oui. Je n'ai pas la prétention de connaître tous les films du noir et blanc, mais voilà, je sais que...
C'est un film qu'on n'oublie pas,
c'est sûr.
À la fois du fait du caractère mégalo du héros,
oui.
Mais aussi de l'aspect... audacieux, très audacieux et innovant de la forme.
Et je sais que moi, à chaque fois, je voyais Orson Welles après dans un film. J'avais du mal à me détacher de ce personnage.
Oui, de ce personnage. Bon, peut-être que pour moi, ce qui a été aussi une étape dans ma découverte d'Orson Welles, c'est La soif du mal, qui reste aussi quelque chose, un film exceptionnel, un film unique, La soif du mal. Avec aussi cette façon de s'approprier toute la technique, toute la puissance du cinéma au service de cette réalisation, de cette création. Voilà. Orson Welles comme créateur, jusqu'à la destruction.
Voilà. Bien. Autre chose, Aliette ?
Voir et revoir les chefs-d'œuvre.
Très bien.
Voilà.
Merci, Aliette.
À bientôt, Franck, pour d'autres films.
Au revoir.